France Inter.
Céline Asselot, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un cocon de bois où les ondulations rappellent le mouvement des vagues. Voilà à quoi ressemble le centre aquatique de Saint-Denis qui est inauguré ce matin. Sans doute le lieu le plus symbolique des Jeux Olympiques et de l'après. Visite guidée au début de ce journal. 49 euros par mois pour sillonner la France. C'est le passerail qui est proposé aux moins de 27 ans cet été. Projet validé au terme d'un bras de fer entre le gouvernement et les régions. On ira voir si ça convient. Les intéressés. Dans l'actualité ce matin également, ce rapport de l'Agence de sécurité des aliments qui s'alarme de la contamination des sources d'eau utilisées par Nestlé. On y revient dans les prochaines minutes. Des brouilleurs de drones dans l'équipement de chaque soldat. Ça pourrait être bientôt une réalité. C'est pour l'instant une innovation imaginée par un régiment français. Reportage à suivre. On verra aussi que l'intelligence artificielle déçoit parfois. C'est le cas du système imaginé par Amazon pour faire ses courses sans passer par les caisses. Et puis on réécoutera les mots, les textes de Kurt Cobain 30 ans après sa disparition. L'icône de toute une génération était aussi une voix féministe.
8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec François Hollande, l'ancien président de la République qui publie un livre jeunesse intitulé « Leur Europe » chez Glénat. Amis auditeurs, vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Faire des JO un accélérateur de projets dans les territoires délaissés, offrir des infrastructures durables aux habitants des zones moins favorisées. C'est avec ces promesses que Paris a emporté l'organisation des Jeux de 2024 et c'est ce centre aquatique olympique de Saint-Denis qui concrétise le mieux ces promesses et qui sera inauguré ce matin par Emmanuel Macron. C'est là, entre deux autoroutes et le Stade de France, que vont se dérouler les épreuves de plongeon, de water-polo et de natation artistique. Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez visité en avant-première ce nid en bois qui est une prouesse architecturale.
Avec ses poutres de 90 mètres de long, concave, unique au monde.
L'idée, c'était le plus fin possible, le plus léger possible.
Laure Merriot est l'une des deux architectes du projet.
Cette toiture courbée qui réduit le volume, la taille des espaces qui ne sont pas immenses, on fait un gain d'énergie qui est très fort.
Ce volume réduit sera chauffé à 90% par des énergies renouvelables ou renouvelées, 20% par exemple, grâce aux panneaux solaires sur le toit.
Les athlètes, ils ont un petit tunnel qui nous amène à la piscine de l'autre côté.
En bord de bassin, il fait déjà 28 degrés. Les tests ont commencé avec un système de fond et de murs mobiles.
Plein de flexibilité pour les gens qui viennent nager, des lignes de 50 à côté de lignes de 25, plus de fond, moins de fond, les plongeoires.
Ce qui en fera la piscine la plus grande de France.
Mais c'est aussi un lieu Clara ancré dans son territoire, créé pour ses habitants.
Car le projet a été pensé comme un centre sportif qui s'adapte aux Jeux Olympiques et non l'inverse. Face à l'immense baie vitrée, le Stade de France en arrière-plan, Guillaume Benoît, responsable du projet pour la métropole du Grand Paris.
La multiplication d'activités qu'on a dans le bâtiment, l'escalade, le foot, le tennis paddle, la restauration, ça rentabilise mais ça le dynamise aussi.
Le Grand Paris a investi plus de 50 millions d'euros. Quentin Gézel, le maire de Dugny en Seine-Saint-Denis, regarde ce nid avec envie.
J'ai fait le compte tout à l'heure, c'est à peu près 30 lignes d'eau de 25 mètres. Ça veut dire beaucoup de créneaux à destination des scolaires. Moi, dans ma ville, c'est 3 enfants sur 4 à l'âge de 10 ans qui ne savent pas nager.
L'ouverture au public est prévue en juin 2025.
L'entrée sera fixée à 5 euros pour les habitants du Grand Paris. Merci Clara Lecoq-Réal du service des sports de France Inter. Et pour parfaire l'image de modernité que veut donner Paris aux touristes du monde entier, eh bien, il faut aussi nettoyer. C'est le cas sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a accueillera les épreuves de vélo, de VTT, de BMX. Depuis hier, une entreprise de nettoyage s'attelle à retirer les déchets qui s'entassent à quelques centaines de mètres du vélodrome Océane Zitouni.
Sur 3 hectares, on trouve de tout, de la laine de verre, une paire de skis et même une cabine de douche indigne de la France. Je Giannis, 20 ans, en route vers la cité universitaire.
Moi, je trouve ça primordial de nettoyer avant d'accueillir un événement aussi gros que les Jeux Olympiques. On va représenter un peu la France, enfin, t'es obligé de faire un centre de nettoyage pour accueillir autant de gens. Enfin, je trouve ça juste un peu dommage qu'ils le fassent juste parce qu'il y a les Jeux Olympiques, parce que je sais que sinon ça aurait été délaissé.
Lui est très optimiste à l'idée de retrouver une nature propre. Elliot Salomon travaille toute la semaine au club de voile de l'île de Loisirs.
Ça nous donne vraiment du coup une deadline. Il y a beaucoup de gens, je vois le week-end, qui se baladent ou qui viennent faire leur footing le matin. Si c'est propre, c'est tout de suite plus agréable pour se balader. Certes, il y a plein de choses qu'on aurait dû faire avant. Moi, ma crainte, c'est plus qu'on retienne que les petits points négatifs alors qu'il y aura beaucoup de choses positives.
Marie-Hélène Carbantès, la directrice du site, retiendra sur surtout un énorme soulagement. Ça fait 4 ans que ces déchets stagnent après l'expulsion de Camp de Rome. Elle attendait depuis décembre le feu vert de la région pour entamer le nettoyage.
Les financements ont été débloqués par la région au mois de mars. Voilà, il se trouve que les Jeux Olympiques auront lieu dans quelques mois. De toute façon, la nécessité de nettoyer cette zone s'imposait, qu'il y ait ou pas les Jeux.
Un grand ménage à 700 000 euros qui prendra fin d'ici à début juin.
Reportage signé Océane Zitouni pour France Inter.
Il est 8h07. Quant à ceux qui ne veulent pas être à Paris pendant les JO, ils pourront compter sur le nouveau passerail.
Oui, le gouvernement est venu à bout des réticences de certains présidents de région, inquiets du coup de ce dispositif qui permettra cet été de voyager de manière illimitée pour 49 euros par mois. Alors il y a quelques conditions. Le pass est réservé aux moins de 27 ans, ne fonctionnera que dans les TER et les intercités. L'Île-de-France ne sera pas concernée, en tout cas pas cette année, mais ça semble répondre aux attentes des jeunes voyageurs que Farida Noir a rencontrés hier à la gare Saint-Lazare à Paris.
Il y a ceux qui sont séduits.
C'est vrai que l'offre elle est pas mal.
Comme Slimane qui n'a pas l'habitude de voyager, mais ce passerail lui donne envie de voir du pays pour un prix attractif, 49 euros par mois.
Le prix il est convenable, c'est pas cher pour ce que c'est.
Vous allez le prendre ?
Oui.
Voyager de façon illimitée en juillet, en août, en TER et intercité partout sauf en Île-de-France, c'est une excellente nouvelle pour Nathan, 25 ans.
Bah ouais, carrément, ça peut que me plaire. On a toujours envie de voyager, donc forcément, là, 49 euros, on va se dire, on peut aller partout, même si c'est long.
Par exemple, le trajet là que toi tu aimerais faire ?
Bah, du coup, Paris-Marseille.
Ça va faire beaucoup de TER.
Ouais, mais c'est rentable.
Un pass rentable aussi pour son ami Naël, qui compte bien explorer de nouveaux endroits.
J'ai beaucoup voyagé à travers les régions Marseille, Lyon, Bordeaux et Montpellier récemment. Et souvent, je prenais des TER pour 49 euros pour aller voyager dans toute la France. Je trouve que c'est cool.
Mais pour Julia...
Pour l'instant, aucune envie.
Car elle pense aux autres frais une fois arrivée à destination.
Parce qu'une fois qu'on va dans une autre ville, il y a toutes les dépenses qui vont avec. Et donc, quand on y pense en tant qu'étudiant, on n'a pas le budget qui peut suivre pour découvrir des villes plus éloignées. Il faut réfléchir à ça et en tant que jeune, ça devient trop cher pour nous.
Au total, le passerail devrait concerner 700 000 jeunes cet été.
Reportage signé Farida Noir. On les trouve dans les textiles imperméables, les poils anti-adhésifs, les emballages alimentaires, mais aussi les détergents, les cosmétiques, les enduits, les peintures. La liste paraît interminable des objets de notre quotidien qui comportent des PFAS, ces polluants éternels très utiles dans l'industrie, mais accusés d'avoir de nombreux effets toxiques sur la santé, de causer notamment des cancers. Les députés vont débattre aujourd'hui d'une proposition de loi issue du groupe écologiste qui vise à en restreindre l'usage, voire à l'interdire dans certains cas à partir de 2026. Des PFAS que l'on retrouve aussi dans des sources d'eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France, parmi d'autres substances. C'est ce que montre un rapport de l'Agence de sécurité sanitaire transmis en octobre au gouvernement et que révèle ce matin France Info et le journal Le Monde. Cette expertise, Marie Dupin, fait état d'une contamination généralisée des sources utilisées pour les marques Épar, Perrier ou encore Vittel.
Eh bien, le premier enseignement, c'est que pour toutes les marques d'eau minérale naturelle produites par Nestlé, l'ANSES fait état de contamination régulière des eaux brutes avant embouteillage, des contaminations avec des bactéries type Escherichia coli ou des entérocoques intestinaux dans des concentrations parfois élevées, alors que la réglementation sur les eaux minérales naturelles ne tolère la présence d'aucune bactérie, que ce soit après ou avant embouteillage. Pour Perrier, par exemple, au moins 5 des 7 forages du site sont concernés. Mais l'ANSES fait aussi état de nombreuses contaminations par des pesticides dont la somme dépasse parfois le seuil réglementaire autorisé, c'est-à-dire 0,1 microgramme par litre. Les experts évoquent un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des produits finis, c'est-à-dire les eaux en bouteille destinées aux consommateurs. Ils écrivent d'ailleurs noir sur blanc que les non-conformités détectées ne devraient pas conduire à la production d'eau embouteillée. La direction de Nestlé, que nous avons contactée, maintient pourtant que la qualité de ces eaux est conforme à la réglementation. Le ministère de la Santé, lui, n'a pas souhaité faire de commentaires.
Les précisions de Marie Dupin. Quelques heures de rab pour les futurs bacheliers. Ils ont jusqu'à ce soir 22 heures pour finaliser leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. La plateforme devait fermer hier soir à minuit. Fermeture repoussée en raison d'une panne des serveurs informatiques. Un appel téléphonique et deux versions radicalement différentes. Hier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Shoigu. Au terme de cet échange d'une heure, le Kremlin a assuré que les deux pays s'étaient dit disposés à dialoguer sur le conflit en Ukraine, ce que Paris a immédiatement démenti. Sébastien Lecornu affirme au contraire avoir condamné la guerre d'agression menée par la Russie. La guerre qui se poursuit et qui se se traduit par une nouvelle pluie de drones cette nuit sur l'Ukraine. C'est la ville de Kharkiv qui, cette fois, a été visée. 4 personnes ont été tuées. La lutte anti-drones est donc devenue une priorité pour l'Ukraine, comme pour les pays qui la soutiennent. En France, le 54e régiment de transmission, basé en Alsace, a mis au point un outil innovant pour repérer et pour brouiller les drones sur le champ de bataille. Une balise suffisamment compacte et légère pour un jour peut-être équiper chaque soldat. Reportage signé Eric Biegala.
Le 54e régiment de transmission est la seule unité de l'armée de terre en charge de la guerre électronique, désormais indispensable sur les champs de bataille, souligne le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre.
La guerre électronique est primordiale aujourd'hui. On estime en Ukraine que sur le front entre les Russes et les Ukrainiens, 70% des drones qui sont neutralisés le sont par la guerre électronique.
Et c'est fort de leur expérience de terrain que les soldats du 54e RT ont conçu ce nouvel outil, le BAD, pour boîtier d'action et de détection de drones. Le sergent David en est l'un des concepteurs.
La philosophie du projet, c'est que chaque soldat peut embarquer ce type d'équipement. Vous avez un écran, 2 boutons, ça tient dans la poche. S'il détecte un drone, ça peut sonner. On peut imaginer plein de manières d'avertir le soldat. Et à partir de là, il sort son boîtier, il appuie sur un bouton. Et puis, il peut espérer que le drone parte ou se pose tranquillement avant de lui lâcher sa charge au-dessus de sa tête.
Le BAD se présente comme un petit boîtier électronique. Le tout ne dépasse pas la taille de 2 paquets de cigarettes et il a d'ores et déjà séduit les plus hauts gradés, comme le général Pierre Schill.
C'est génial. Moi, j'attends qu'on industrialise au moins la base détection et je verrai très bien les soldats de l'armée de terre équipés de ce boîtier. Si chaque soldat a sur son casque ce petit système de façon à ce qu'il y ait une alerte, c'est déjà génial.
Les prototypes fonctionnent, ne manquent plus aujourd'hui que l'industriel qui acceptera de produire le BAD en grande série.
Précision signée Eric Biegala. Faire ses courses sans passer par la caisse, c'est ce que propose depuis quelques années Amazon dans ses supermarchés aux États-Unis. Mais cette technologie présentée comme l'avenir de nos emplettes ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Et la firme américaine fait machine arrière, Adrien Serrière.
Quand Amazon s'est lancé dans le commerce physique, le géant américain espérait imposer sa vision futuriste du supermarché.
Allez, entrez ! Et une fois dans le magasin, les caméras au plafond associées aux capteurs des rayons détectent les articles pris par les clients et les ajoutent dans un panier virtuel. Quand j'ai fini mes courses, je sors. C'est aussi simple que ça.
Dans ces magasins, pas de caisse. Il faut tout de même scanner sa carte bancaire pour franchir les portiques d'entrée. Ensuite, tout est automatisé grâce à l'intelligence artificielle. Du moins, en apparence, car pour vérifier les achats, les vidéos sont revues par plus de 1000 petites mains en Inde où Amazon et ses recruteurs cherchait encore récemment de nouveaux caissiers virtuels.
Amazon recrute à nouveau des agents d'apprentissage automatique. Il y a des postes à Hyderabad et à Chennai. Le salaire annuel va de 250 000 à 300 000 roupies.
C'est-à-dire entre 2 800 et 3 300 euros par an, un revenu très en dessous du salaire moyen en Inde. Compte tenu du coût exorbitant des caméras et scanners, Amazon n'a pas réussi à rentabiliser sa technologie Just Walk Out et va se rabattre sur une solution plus pragmatique mais toujours basé sur l'intelligence artificielle. Cette fois, c'est un chariot intelligent qui scannera les articles au fur et à mesure.
Adrien Serrière de la rédaction numérique de France Inter.
Il est 8h15 et si Kurt Cobain avait été l'une des premières rockstars féministes.
Oui, on pensait avoir tout dit sur le chanteur de Nirvana disparu il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, sur la douceur et la rage de sa musique qui en ont fait le porte-parole de toute une génération. Mais on était peut-être passé à côté de la modernité de ses mots sur le patriarcat, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en le réécoutant aujourd'hui, on découvre Mathieu Culeron qu'il a aussi porté un message féministe tout au long de sa carrière.
Cela saute aux yeux quand on le parcourt. Le journal intime de Kurt Cobain, publié après sa mort, regorge de pensées féministes. Dans une liste de concepts censés fonder Nirvana, on retrouve cette phrase.
« Puissent les femmes gouverner le monde ?»
Et quelques pages plus loin, il déclare
« J'aime savoir que les femmes sont généralement supérieures aux hommes et moins violentes qu'eux. »
Plus loin encore, on retrouve cette phrase que l'on pourrait qualifier de pensée pré-woke.
« Il est presque impossible de déprogrammer l'oppresseur mâle, en particulier lorsqu'il a été biberonné au sexisme de génération en génération. »
Toute l'œuvre de Nirvana est parcourue de chansons qui ridiculisent le sexisme et le machisme. C'est le cas d'In Bloom, extrait du premier album Nevermind, que Kurt Cobain expliquera par ces mots.
« Je n'aime pas les sales types, les machos, les gens violents. »
Quant au titre « Rape Me », mal compris à sa sortie, Kurt Cobain déclare lors d'un concert à Seattle qu'il parle de ces sales types chevelus, machos, qui puent la sueur et violent des filles.
« This song is about hairy, sweaty, macho, redneck men. »
Kurt Cobain qui a donc combattu sans relâche pour la cause des femmes et qui a très largement contribué à féminiser le rock pour des générations.
Kurt Cobain qui est donc mort le 5 avril 1994. Un hommage lui sera rendu au printemps de Bourges dans quelques semaines.
Merci Céline Asselot. Benoît Magimel est à l'affiche du nouveau film de Stéphanie Di Giusto, Rosalie, en salle la semaine prochaine. Il sera au micro de Léa Salamé tout à l'heure à 9h20. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Et le pays reste coupé en deux.
Eh oui Nicolas, car d'un côté on a la tempête Olivia à l'ouest de l'Irlande qui nous envoie une succession de perturbations alors qu'un anticyclone se renforce sur la péninsule ibérique. Donc au nord d'une ligne qui relierait Bordeaux-Annecy, on a une première dépression qui balaye le pays avec pluie, vent très fort jusqu'à 90 km/h, en se rappelant que si les 4 premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour 40 jours, vous êtes prévenus. Et puis une deuxième dépression d'un front chaud va rentrer par la Bretagne cet après-midi, gagnant rapidement les pays de la Loire au Cantentin, alors que sur les autres régions du Nord, un ciel de traîne va se mettre en place avec des bourrasques sous les averses, des giboulées et même des coups de tonnerre, alors quand même que des éclaircies reviendront sur les Hauts-de-France et sur le Nord un petit peu de l'Île-de-France. Et puis sur la moitié Sud, vous passerez une journée printanière, voire estivale.
Et le mercure prend des couleurs.
Oui, même quelques bouffées de chaleur, hein, car en fait c'est une tempête Olivia, donc qui fait remonter cet air chaud du Maghreb. Déjà aujourd'hui, on va atteindre, Nicolas, les 25 au Pays Basque, alors qu'il ne fera que 14 à Brest, 16 à Strasbourg, 17 à Rouen, 18 à Paris comme à Nice et 22 à Marseille. Et ça va continuer de grimper comme ça pour atteindre un pic de chaleur demain et samedi, avec jusqu'à 30 au sud de la Garonne, demain et samedi jusqu'à 25 au nord, avec même peut-être un peu de sable saharien dans l'air sur le quart nord-ouest. Et je vous laisse à méditer pour vos vacances, Nicolas, cette citation de Maryse Condé, le rire est le premier pas vers la libération. On commence par rire. On rit, donc on se libère, donc on peut combattre.
Magnifique. Merci infiniment Marie-Pierre Planchon. Il est 8h19.